Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 155, ici Richard Delhomme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis plusieurs épisodes, il n'y avait plus d'intro. Et sur le coup, j'ai trouvé ça sympa, parce qu'en plus, personne ne m'en a fait la réflexion, donc je me suis dit, nickel, les gens en ont marre d'écouter ma voix, donc tranquille, j'ai plus besoin de perdre 5-10 minutes à faire une intro, super. Mais en fait, ça me gêne un petit peu quand même. Parce que c'est pas le côté je parle, je fais le con devant le micro et tout. C'est que à laisser l'épisode comme ça en pâture, je mets la musique et je balance l'épisode sans une petite introduction, j'ai l'impression de me détacher de vous, les auditeurs et les auditrices, et j'ai l'impression que je balance ça un petit peu comme ça, je m'en débarrasse. Et ça me gêne un petit peu et j'ai l'impression que ça coupe le lien entre vous et moi. Alors que justement, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore à 155 épisodes. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer de semaine en semaine, simplement pour garder ce lien avec vous. Donc voilà, je vais perdre encore 5-10 minutes malgré mon emploi du temps surchargé pour faire cette petite introduction, vous raconter ma vie comme d'habitude, même s'il n'y a rien d'intéressant. Là, malgré tout, sachez quand même que le planning de Richard est super chargé parce qu'on arrive à la fin de la création du numéro 2 de Planète Gravel. Et c'est un petit peu tendu, quoi. Entre la création du magazine, rouler pour tester les vélos, rouler pour préparer des trucs, les cours en école à côté, la création des différents contenus et puis également la vie de famille, il n'y a pas beaucoup le temps de glander et de se gratter les cèdes sur le canapé devant la télé. Et croyez-moi que ça me manque et que j'aimerais vraiment faire ça. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je reçois Paul Galéa. Paul Galéa, je peux vous dire que c'est pas la moitié d'un tocard. Aujourd'hui, c'est le retour du grand Paul Galéa. Et Paul Galéa, c'est à la fois un bon gars, super cool, marrant, agréable et tout. Mais sur le vélo, c'est une brute. Un animal sauvage déchaîné et assoiffé du sang de ses adversaires. Bon, j'exagère un peu, mais globalement, vous avez compris l'idée. Et après 2 années un petit peu galère, comme nous tous, Paul est de retour et franchement, il n'est pas content. Pour se calmer, au printemps, il était au départ de l'Italy Divide et il est arrivé 5e. Puis, comme il ressentait encore un petit peu de tension sous-jacente, il est allé sur Bordeaux-Paris et il l'a fait en pignon fixe. Oui, oui, tu as bien entendu, en pignon fixe. Et il est également arrivé dans les 20 premiers. Voilà. Donc sans plus attendre, Paul Galéa. Mais bon,
ouais.
Bon, en tout cas, mon petit Paul, comme d'habitude, attends, je vais essayer de poser ma tasse sans en foutre partout, tu vois, histoire de compléter un peu le tableau, parce qu'en plus mon chien est malade, j'ai pas dormi de la nuit, donc voilà, bref, tout va bien, c'est le bordel total. Mais en tout cas, Paul, mon petit Paul, c'est toujours un plaisir de t'avoir et en plus... je crois bien que c'est la première fois que je te vois en caméra, parce qu'habituellement, la dernière fois que je t'ai vu, c'était sur le vélo, et que je t'ai pas vu longtemps, donc, mais bon, c'est ainsi.
Oui, c'était dans l'Aude, ouais, un petit trace gravel bien sympa, d'ailleurs.
Gravel, mon premier vrai 200 km en gravel, ouais. Avec un petit 4005 de dénive dans la caillasse, et c'était ma dernière sortie, ouais. En chambre à air. Parce que j'avais reçu des roues en carbone juste avant.
Ah bah tu vois.
C'était la dernière fois que je roulais en chambre à air et j'ai pas crevé. Mais j'étais gonflé comme un malade. Alors je te dis pas, j'ai rebondi.
Ah bah oui, dans le coin, de toute façon, c'est tubeless obligatoire. Donc je cherche même plus à comprendre.
Alors, mon petit Paul, on va s'y mettre. Parce qu'il y a quand même de l'actualité avec toi. Et je vais profiter de t'avoir sous la main. Et je vais profiter d'avoir ton ancienneté sous la main. Parce que, bon, là, évidemment, on vient de passer une période un petit peu trouble, avec des annulations d'épreuves, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Toi-même, parfois, des petits moments de moins bien, des petites hausses de morale. Ceux qui te connaissent bien savent que tu as le moral un petit peu fluctuant. Et pourtant, là, tu es de retour et tu as enchaîné plusieurs trucs relativement impressionnants. Donc, une cinquième place à l'Italy Divide, un Bordeaux-Paris en pignon fixe. J'ai vu passer un truc, un 500 la semaine dernière également. Et du coup.
Oui, bah c'est en fait, je te coupe, excuse-moi. Oui, c'était le Raid Provence Extrême qui a été annulé apparemment au dernier moment, et du coup on l'a fait avec les copains du team en off en fait.
D'accord. Attends, le Raid Provence Extrême, c'est pas organisé par Olivier de Ego Bike? Non? Je confonds le nom. Non, je
Non,
confonds le
non, je
nom.
crois pas, non, non,
Et
non. Ouais.
donc là, ça marque un petit peu ton retour sur le devant de la scène et ton retour à des performances telles qu'on les attendait de ta part. Et tu es un ancien. Tu es un ancien, t'as participé vraiment aux premières épreuves en France, t'as fait plein de trucs, t'as pas attendu, entre guillemets, que ce soit super à la mode pour partir tout seul avec ta sacoche. Depuis, et en plus, tu as été le deuxième épisode de Spotzl il y a 3 ans ou même 3 ans et demi. Donc, en 3 ans, il s'en est passé des choses. Il s'est passé 157 épisodes. Quel regard tu jettes ou tu portes sur l'évolution de la discipline depuis ces 3 années que l'on a passé ensemble à rouler, à échanger régulièrement ensemble? Sur le niveau, la densité ou même l'ambiance sur les épreuves, le comportement des coureurs et des coureuses, le comportement des organisateurs également. Quel regard tu portes sur cette évolution en 3 ans?
Mais après, c'est ouais, c'est une. Je pense que c'est l'ultra, c'est devenu un peu bikepacking ultra, c'est devenu un peu à la mode, comme l'a été, il est encore, je pense, le trail en course à pied. Donc, bah, forcément, je pense qu'il y a des petites dérives à droite à gauche, mais bon, faut pas que ça aille plus loin, quoi. Dans l'ensemble, ça reste encore
Qu'est-ce que
bon
tu entends
enfant, on
par
va dire.
dérive?
Donc, après, bon, l'évolution, ouais, au niveau des performances déjà, ben moi, je m'aperçois que le niveau monte chaque année. C'est une bonne chose et une moins bonne chose parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se mettent maintenant en danger. Une épreuve d'ultra, c'est pas anodin, c'est pas un trail qui fait 80 km, c'est pas une cyclo-sportive qui fait 200 km. Là, on part sur des épreuves de 1000 ou 2000 km, ce qui veut dire enfin entre 2 et 4 jours, voire 5 ou 6 sur le vélo. Devant, on a des gens qui dorment plus pour pouvoir performer. Bon, je dis ça, mais il m'est arrivé de pas dormir non plus pendant 2 ou 3 jours. Mais avec le recul, je pense pas le refaire, en fait. Parce qu'on se met franchement en danger. Il y a eu, bah, des cas, enfin, on a tous eu, hein. Il y a eu quelques morts sur les épreuves. Bah, ça a commencé en 2017 avec 3 morts. Cette année, il y a eu un mort sur la Race Cross Italie. Donc, bon, après, est-ce que c'est dû à la fatigue? Ça, voilà, je sais pas encore, mais je pense qu'on peut, enfin, voilà, les gens poussent vraiment loin la machine aujourd'hui, et c'est ce qui me fait un peu peur sur ces épreuves, en fait. C'est qu'il y a une émulation et, enfin. Après, sur l'Italie Divide, enfin, j'ai une stratégie fortuite, on va dire, qui m'a montré que finalement, quand on s'arrête beaucoup et que derrière on roule fort, ben, on perd pas trop de temps, en fait. Je prends l'exemple, ben, du gars qui est arrivé juste devant moi. Lui, il a quasiment pas dormi. Il a dormi peut-être 1 heure par nuit en se posant vite fait. Moi, j'ai fait un très gros arrêt de 11 heures et finalement, j'arrive juste derrière lui parce que lui était arrivé complètement cramé. Alors que moi, je suis arrivé relativement frais, en fait.
Quand tu parlais tout à l'heure des dérives, tu entends quoi par dérive?
Ben, le fait de se mettre en danger, déjà, de pousser la machine vraiment bien. Après, au niveau dopage, est-ce qu'il y en a? Voilà, je veux pas m'avancer là-dessus, mais bon, quand on voit des coureurs qui enchaînent 5-6 épreuves, voire plus, par an sans dormir, avec des grosses perfs, des fois il y a de quoi se poser des questions, quoi.
Bah, de toute façon, c'est un peu le cas.
Donc, ne serait-ce que pas forcément prendre des produits qui augmentent les performances, mais prendre quelque chose pour éviter de dormir, en fait. Et pour moi, c'est là qu'est la mise en danger.
Ah ouais. Ben, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais là, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance à pas dormir pour, peut-être pour copier les champions. Sofiane avait lancé un petit peu, c'est un petit peu lui qui avait lancé le truc il y a 2 ans avec l'Atlas, où on s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout dormi ou très très peu pour gagner. Depuis, tout le monde s'y est mis et ça dort de moins en moins, et j'ai l'impression qu'il y a à la fois ceux qui font ça pour vraiment être devant, et il y a ceux également qui le font par mimétisme pour faire comme les champions, sauf que et je m'inclus dedans, on n'est pas des champions. Donc on n'a pas forcément l'équipement total pour enquiller ça. Donc c'est pas forcément une super idée, alors que, comme tu l'as dit, il suffirait peut-être de rouler un poil vite, et c'est ce que Steven m'avait dit globalement. On en avait déjà parlé, mais que
moi c'est ce qui m'a vraiment
Il y a rouler vite, s'arrêter longtemps, rouler pas vite, ne pas s'arrêter.
Et à la troisième école, rouler vite et pas s'arrêter.
Ah, c'est l'école Ulrich Bartholmos. C'est l'école, il y a deux, oui, ils sont pas nombreux à pouvoir faire ça, mais
voilà.
Moi, tu vois, ce qui m'impressionne, c'est les moyennes de ce week-end sur Unbound, donc anciennement Dirty Kenza, l'épreuve historique gravel de 320-330 km, avec seulement 3000 de dénivelé. Et il y a 2 ans, quand Colin Strickland avait gagné, il avait mis 10 heures. Donc, c'était déjà un temps extrêmement solide. Et là, ils ont mis une demi-heure de moins cette année, les premiers. Ils ont roulé à 34 de moyenne pendant 320 km en gravel, sous la pluie.
Bon, après... Sous la pluie, en plus. Bon, après, il y a gravel et gravel. Je pense que là-bas, c'est une épreuve de gravel où on se cale sur les prolongateurs et on roule à 40 et on attend.
Mais n'empêche que 34 de moyenne.
Mais quand même, oui.
Donc 500 et quelques kilomètres, le premier, il fait 29,5 de moyenne. Ça commence à aller vite. Alors certes, c'est le premier.
Oui, après le niveau, il monte. Après, je pense qu'il y a aussi... contrairement au début de ces épreuves-là, maintenant, il y a pas mal d'anciens pros qui s'y mettent aussi. Apparemment, sur le bord de Paris où j'étais, devant, il y a au moins un ancien pro, voire deux ou trois.
Je crois que c'était un duo des deux anciens de chez Arkea Samsic.
Oui, devant, en tête, oui, mais après, derrière eux, il y a encore un ancien pro qui est arrivé.
Alors, mais c'est sûr que là, le...
Donc, c'est pour ça que le niveau augmente aussi. Bon, après, c'est bien, franchement.
C'est vrai que ça emmène aussi les petites dérives typiques du sport, que ce soit comportemental ou pharmaceutique. Ça amène tout un tas de petites dérives.
Oui.
Et les dérives, elles vont jusqu'aux amateurs qui se sentent plus pissés. Comme m'avait dit le speaker de l'UTMB, les mecs qui abandonnent et qui viennent récupérer, enfin, qui viennent quémander leur t-shirt finisher. pour avoir le t-shirt finisher, faut être finisher, et quand t'abandonnes, t'es pas finisher. Et ça, ouais, tu vois, ça amène ce genre de petits.
Après, je fais un peu le parallèle avec le Paris-Brest-Paris, qui normalement est soumis à des qualifications, donc tous les brevets qualificatifs. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de personnes de pays asiatiques qui achètent les brevets, qui n'ont jamais fait plus de 100 km de leur vie, et en fait, qui s'alignent au départ, parce qu'il faut s'aligner au départ du Paris-Brest-Paris, quoi. Et 50 km après, ils abandonnent. C'est une question d'image, en fait.
Je ne sais pas quoi répondre à ça, franchement.
Malheureusement, la société est bâtie là-dessus aujourd'hui, sur une image. Voilà.
Bon, en tout cas, toi... Après 2 ans, donc après 3 ans, 3 ans après notre premier épisode, après 2 ans de pandémie, après des hauts et des bas dans le moral. Tiens d'ailleurs, j'ai deux questions. Enfin, j'ai une question hyper intéressante. Ça changera. Quand tu prends le départ d'une course et que tu es à deux doigts d'abandonner, est-ce que, comme il y a 3 ans, ta femme te menace encore de changer les serrures de la porte ? Parce que ça avait été le cas sur la GTB. Elle t'avait dit, si tu abandonnes, je change les serrures, tu te démerdes. Je m'en souviens.
Non, j'ai acheté notre maison entre temps.
Je croyais que tu
non, c'est pas vrai.
Changer de gonzesse.
Non, c'est vrai que oui, moi au niveau du mental, c'est bon. Enfin, c'est soit on/off en fait. Hein. Et c'est vrai qu'en Italie, bah, après à grosse demi-journée sous la pluie, j'avais qu'une envie, c'était rentrer quoi. Mais bon, après une bonne nuit de sommeil, ouais, et c'est reparti.
Un petit peu, mais on reviendra sur le déroulement de l'Italie.
Donc, en fait, il me faut un peu de pression, mais pas trop, voilà, un minimum, pour arriver au bout.
On va revenir là-dessus. Et également, il y a deux jours, j'ai promis à un de mes gars de te dire ça. Parce que j'entraîne un gars de Perpignan, Cyril, et il me dit « Ouais, j'en ai marre, je fais toujours les mêmes boucles sur la route. » Est-ce que vraiment autour de Perpignan, on peut toujours faire les mêmes boucles en route et chemin, ou est-ce qu'il y a quand même... Est-ce que tu roules toujours au même endroit, ou est-ce qu'il y a un petit peu de variété quand même? Parce que moi, en Eure-et-Loire, oui, je roule toujours au même endroit. Mais vous, à Perpignan, avec la quantité de pistes que vous avez autour du Canigou et tout ça, Cyril, je suis désolé, mais là, t'as pas d'excuses. En plus, ce bougre, il vient de s'acheter un Caminade. Mortel, il va pouvoir faire du gravel, il a plein de trucs, il a un fat bike, il a plein de trucs. Et ce con, je suis désolé Cyril, hein, je te le dis comme ça, il me dit « Non, moi je roule toujours au même endroit. » Non mais oh, t'y crois toi ?
Déjà il y a deux choses. Nous, déjà le département, on est coincé avec la mer d'un côté, donc forcément notre terrain de jeu, il bascule côté ouest. Mais après, moi là où j'habite, si je veux vraiment, enfin oui, je roule toujours plus ou moins au même endroit, fatalement. Mais moi, ce qui est rédhibitoire, c'est de prendre la voiture pour aller rouler et m'éloigner un peu, en fait. C'est pour ça que, du coup, j'allonge mes distances en vélo. Parce qu'en plaine, on a 20, 30, voire 40 kilomètres des fois de plat pour accéder aux chemins intéressants. Mais après, non, il y a pas mal de variétés quand même ici. Moi qui roulais pas mal en VTT, oui, il y a de quoi faire.
Le problème, c'est le vent quand même.
Mais c'est vrai qu'on est toujours coincé par ce côté mer qui, forcément, réduit le périmètre de jeu.
Puis le vent. Le vent, c'est quand même un truc terrible à Perpignan.
Écoute, ça tombe bien que tu dises ça, parce qu'aujourd'hui, on peut pas rouler à cause du vent, en fait. Enfin, on pourrait, mais bon, c'est pas agréable. Et oui, le problème du vent, c'est que forcément, on tombe toujours sur les mêmes parcours un peu à l'abri, donc tout ce qui est Val-Espire, là-bas, c'est bien abrité du vent. Après, il y a beaucoup de gens d'ici qui vont carrément rouler en Espagne. Mais c'est pareil, moi, je me vois pas faire une heure de voiture pour aller faire 3 ou 4 heures de vélo, en fait.
T'es pas obligé de faire 3 ou 4 heures, hein. Tu l'as déjà fait quand même d'aller traverser l'Espagne, notamment avec... j'ai mangé son prénom.
Oui.
Le petit là de Bordeaux, comment il... Maxime. Le petit Maxime de Bordeaux, tu l'as quand même suffisamment
Maxime,
fait d'aller
ouais.
traverser l'Espagne. Donc.
Oui. Non, mais après, oui, il faut prévoir. Après, pour aller chercher des parcours intéressants, il faut prévoir quand même se libérer la journée.
Bon,
en fait.
Du coup, ça c'est fait.
Mais pour une demi-journée.
Oui, c'est un petit peu dommage, en effet. Bon, du coup, Paul, maintenant que j'ai réglé mes comptes avec la société, que j'ai réglé mes comptes avec ta femme et avec Cyril, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, toi, ces 2-3 dernières années, comment ça s'est passé ? Comment tu as géré tes voyages ? Comment tu as géré les épreuves, les abandons, etc. Et qu'est-ce qui t'a mené finalement à ce retour de l'immense Paul Galea en 2022 et cette cinquième place sur l'Italy Divide ?
En fait, je crois que comme un peu tout le monde, les années, le Covid, c'était quoi, 2020-2021 oui. Ça a un peu cassé tout le monde, quoi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses annulées, on n'a pas pu aller rouler comme on voulait. Et ce qui m'a remis le pied à l'étrier, moi, tout simplement, c'est que j'étais inscrit à l'Italy Divide depuis 2019. Et 2 années de report où j'ai pas pu aller puisque c'était en été, donc cette année-là... ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, on va dire. Donc, c'est ce qui m'a remis en selle et remotivé pour rouler, tout simplement. Donc, du coup, j'ai regardé un peu le calendrier, j'ai enchaîné avec 2-3 inscriptions, donc, notamment le Bordeaux-Paris. la RAF fin juin et un brevet de 1200 en juillet. Et après, on verra. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Oui.
Qu'est-ce qui t'a incité à aller...
Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'enchaîner en...
Vas-y.
Oui. Moi, je dis, en 2018, j'avais enchaîné pas mal d'épreuves avec beaucoup de kilomètres et l'année d'après, je pense que je l'ai payé un peu avec la fatigue aussi.
Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Italie?
Donc après, ce que je te disais, c'est dur d'enchaîner pas mal d'épreuves chaque année, en fait. Je pense qu'il faut un temps de repos. Sinon, enfin, on y laisse pas mal de plumes, quoi. Surtout quand on bosse à côté.
Bon, je vais retenter, parce qu'il y a un petit décalage, en fait, entre le moment où je parle et le moment où tu entends et que tu recommences à parler. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Italie plutôt que, par exemple, aller faire une BTR qui t'emmenait à Sienne ou retourner faire une énième gravel trop braise et peut-être encore péter ton pédalier? Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter l'aventure en Italie sur une épreuve finalement, bah, pas hyper loin, mais quand même un tout petit peu, il fallait faire la démarche d'aller en Italie tout de même.
Ben, comme je te disais, c'est tout simplement le report de mon inscription qui datait de 2019, en fait. Donc, ben, la date, c'était en... Quand est-ce que j'ai fait ça? En fin avril. Et puis, j'avais envie de... Voilà, j'avais roulé deux, trois fois brièvement en Italie. J'avais envie d'y retourner et de refaire une épreuve gravel un peu pour changer de la route, en fait, tout simplement.
Juste ça. Voilà, t'avais bien
Oui,
aimé les Italiens
c'est
et les
juste.
Italiennes, les paysages étaient à ta convenance, et puis t'aimes bien rouler sur du gravier, bah voilà. Bon, bah effectivement, l'Italie semblait être le meilleur.
Oui, voilà, c'était. Ouais, en plus, c'est un format qui me convient bien, le 1200-1300, ça me va, plus un peu de mal. Donc, sur le papier, tout était parfait, en fait,
Oui, un petit
voilà.
peu de tout-terrain pour mettre à profit tes qualités techniques, un petit peu de route pour la puissance, et puis pas trop long pour pas que ça soit trop long et que mentalement tu disjonctes pas en fait.
Exactement.
Ah, mais écoute, ce qui compte c'est de connaître ses qualités et ses défauts. Tu sais, y en a à qui ça convient, d'autres à qui ça convient pas. Mais toi, tu sais que 1300, c'est la limite. Et du coup, ouais, toutes les épreuves plus longues, style RAF 2000 ou transcontinental, c'est pas pour toi, je crois.
La TCR, je m'étais justement, j'étais au départ en 2017 et j'avais bâché au bout de 1000 ou 1200.
Voilà,
Donc tu
c'était
vois,
un
c'était
signe.
vraiment ma limite. Et la RAF, en fait, le 2005, moi, il m'intéressait beaucoup. Je me suis inscrit sur le 1000 et voilà, traversais pas trop parce que traverser toute la France, toute la plaine, là, c'est pas trop mon truc. Donc, du des Alpes qui est, enfin, pour
Ouais,
moi, plus
ouais.
intéressante, en fait.
Là, sur l'Italie, t'étais équipé.
Mais après, après, je pense que ceux qui s'embarquent sur le 2005, c'est un 2005 qui va être très dur parce qu'au bout de 1500 km, ils vont commencer à attaquer le gros dénivelé et là, il faut leur une bonne gestion en fait.
Ben, on verra ça, sinon il y aura plein d'abandons, et puis voilà, et puis ça sera une bonne occasion d'apprendre quelque chose. Comment tu étais équipé pour l'Italie Divide? Parce que avec cette proportion de route et de chemin, notamment au niveau des braquets et de tes tailles de pneus, tu as pris quelle option?
En fait, maintenant, enfin, j'ai la chance d'avoir deux vélos en deux gravel, donc un en double plateau, un en mono. Donc déjà, j'ai écarté le vélo en double plateau, non pas à cause de la transmission, mais parce que je pouvais pas mettre de gros pneus dessus. Et du coup, j'ai pris un vélo en mono plateau en 38 devant et 11 et 10 42 derrière, pardon. Et en pneus, j'ai mis du classique 700 par 42 en fait, parce que j'avais vu sur que le parcours était, enfin, une grosse partie assez roulante, les 300 premiers kilomètres, grosso modo, c'était de la route. Et donc le 42, c'est un très bon compromis. Et pareil pour la transmission mono en fait, 38-42, ça permet de passer quasi partout. Ou alors si je passe pas, je pousse, mais je vais dans ce cas-là aussi vite que quelqu'un qui va rouler. Et après, 38-10 sur route sur un, avec un gravel, ça permet de rouler à 30 ou un peu plus ouais. sans trop se fatiguer.
Est-ce que tu ressens une différence de... pas forcément de vitesse, mais de facilité à emmener un braquet entre le double et le monoplateau à ratio égal? Est-ce que tu sens une différence entre le mono et le double, sachant que tu es quand même un pousseur de gros braquets, que tu roules en force, que tu n'as pas une fréquence de pédalage de dingue, que tu roules plutôt en force? Est-ce que tu ressens une différence ou une différence de feeling entre double et mono à ratio égal?
À ratio égal, c'est vrai que moi je préfère avoir un gros plateau devant en fait. Donc là j'ai sur l'autre j'ai un 40, attends de mémoire, 46-34. Et c'est vrai que sur le plat ou sur le roulant, le 46 est plus agréable à emmener qu'un 38 en fait, avec un petit pignon de 10 ou 11.
Ouais, ça c'est vraiment le... Oui, pardon.
Et oui, le double, pour moi, c'est... Enfin, c'est pas rédhibitoire de rouler en double plateau en gravel. Tu vois.
Ouais, j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur le mono parce que... je sais pas trop pourquoi, parce que... Ouais, je sais pas. Y a la simplicité, peut-être l'efficacité, la fiabilité, mais j'ai l'impression qu'à tort, on se focalise sur le ratio en se disant... j'ai un 38-11, c'est l'équivalent d'un 46-16, peut-être, je sais pas, j'invente, j'ai pas les chiffres en tête. Et du coup, c'est pareil, alors je reste en mono.
Oui, oui.
Le feeling, il est pas du tout pareil. Et les frictions,
non, du tout.
Les angles de la chaîne sont vachement plus importants que sur un gros plateau et une grosse cassette.
Tout à fait.
Tout te dire, là, hier, j'ai reçu une chape surdimensionnée cycling céramique. Et je vais essayer ça, justement pour réduire les frictions dans D'accord. la transmission. Et je suis en train de bidouiller, de réfléchir à une bidouille avec un grand plateau, un grand monoplateau et une grosse cassette derrière. Justement pour avoir des angles très faibles, avec une chaîne plus longue, évidemment, beaucoup plus longue, mais justement pour réduire les frictions. Mais le problème, c'est que si je fais ça, si je suis par exemple 44-52, donc avec la grosse cassette derrière, je vais quand même avoir la chaîne tordue, donc une grosse friction. Donc est-ce que il vaudrait pas mieux rester en double plateau alors?
Pour moi oui, parce qu'en plus avec une cassette étagée de la telle façon, une cassette mal étagée en fait. C'est d'où l'intérêt du double plateau est là, c'est qu'on n'a pas des cassettes vraiment surdimensionnées et l'étagement est quand même mieux fait.
Ah ouais. Ouais.
Après ça c'est mon côté routier qui parle, mon côté vététiste, ce que tu te dirais qu'en gravel l'étagement s'en fout un peu.
Ouais, ça dépend aussi ça dépend de l'épreuve et du contraste de terrain que l'on va avoir. Si on a un parcours vrai...
C'est pour ça qu'il faut avoir deux vélos.
Et si t'as pas deux vélos, t'as deux plateaux. Comme ça, tu peux pallier au contraste. Voilà. Parce qu'imagine un parcours un petit peu globalement roulant avec quelques coups de cul. À l'inverse plutôt montagneux avec une longue partie ultra roulante, c'est peut-être pas mal d'avoir justement tout cet étagement avec le double plateau pour profiter, pour être efficace sur tous les terrains. Parce que s'il y a 80 km de roulant et que tu te retrouves là-dedans avec ton 38-11, c'est emmener un 38-11 correctement, c'est quand même épuisant parce que faut emmener gros et puis c'est pas agréable à emmener, on a l'impression d'être tout le temps à fond.
Ouais.
Tout le temps en prise, alors qu'emmener un 46, 18 ou 20, ça roule tout seul. Il n'y a pas à chier. Désolé de le dire comme ça, mais il n'y a pas à chier. Vraiment. T'avais fait l'option, vraiment.
Je le vois sur mon fixe.
Ouais. Vas-y, parle.
Je dis, moi, sur mon fixe qui est en 55, c'est vrai que le 55 est assez agréable à emmener aussi par rapport à un plus petit braquet.
55. Non mais par contre t'as deux pignons fixes parce que des fois je te vois sur le 55 mais je te vois aussi sur un 42 quelque chose ou un petit peu moins même.
Alors en réalité j'en ai quatre de pignons fixes. Mais
très
bon.
Bien. Je comprends pourquoi t'as changé de maison. Hein.
Mais en fait j'ai mon... En fait, j'ai commencé sur mon vélo taf avec un 42-16. Quand j'ai fait construire le JRD, en fait, c'était, j'ai pris du 39-15 tout connement parce que je suis tombé sur un pédalier pôle avec un plateau en 39 dents. Donc, pour avoir une équivalence, j'ai mis un pignon de 15. Et là, le Langster, en fait, je l'ai passé en 50-15 pour pouvoir faire du roulant et m'entraîner à rouler un peu plus vite sur le plat. Et finalement, je m'aperçois que 50-15, ça me correspond. C'est un braquet qui me correspond parfaitement. En
fait. Oh, c'est une bonne.
Bon, après, je suis pas un exemple dans le pédalage, dans la vélocité, quoi. Moi, je travaille toujours en force, en fait.
T'es comme ça. On va pas trop faire, hein. C'est pas parce que tu moulines pas comme une
oui.
que et puis c'est aussi t'es comme ça, c'est tout, qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Donc
disons qu'à la base j'avais justement pris un ratio en 39-15 pour m'entraîner, pour me forcer à mouliner, en fait.
Ah ouais, mais
et après, l'intérêt justement d'un gros braquet en 50-15, c'est que si on veut avoir une cadence de pédalage minimum pour pas se cramer ou se flinguer les genoux, on est obligé de pédaler plus vite. Et on progresse.
Ah, oui, ça, mécaniquement, quand tu mets que ce soit un 39, un 42 ou un 50, plus spécifiquement, même un 39 ou un 42, si tu veux avancer un tout petit peu, tu es obligé de tourner les jambes. Parce que le ratio, il est tel que si tu tournes
oui,
80
voilà.
tours minute, tu roules à 25, c'est infernal. Tu n'avances pas, il te faut 2 heures pour faire 50 km, c'est chiant. Et si tu veux avancer, faut tourner les jambes. Et ça, là, ça fait progresser. Vraiment. Parce que tu es obligé de mettre du rythme et c'est terrible.
Et mine de rien, même. Et ça force moins sur les genoux aussi.
Oui, parce que le 50-15, ça doit t'arracher quand même.
Ça va encore.
C'est terrible. C'est...
Au début, je l'ai eu en 54. Là, par contre, c'était un peu rude. Ouais.
C'est vrai qu'à une dent près. Bon. Sur l'Italie, est-ce que.
Ouais, elle compte là, cette dent-là, elle compte beaucoup.
Ah
bah, oui.
À ton âge, oui, c'est sûr qu'une dent, ça fait toute la différence. Mais je, suis pas très, je me moque, mais comme je suis pas très très loin derrière, je me permets de me moquer parce que je suis quand même, t'es quand même passé, t'es pas beaucoup plus vieux que moi, donc je me permets de me moquer gentiment. Sur l'Italie,
oui,
tu avais fait quel choix en termes de light, pas light, léger, pas léger, bivouac, pas bivouac, sac de couchage, bivy, pas bivy, t'avais pris quoi comme option?
Alors en fait, j'étais parti très léger. Bon, déjà, j'ai un vélo à la base qui fait moins de 8 kg. Et après, j'ai tout rationalisé pour être en poids total dans les 15 kg, j'étais, je pense, avec eau et nourriture, plus tout le matériel, vêtements. J'avais pris, oui, un duvet et un bivy. Donc, en fait, quand je pars, j'ai pas de plan préétabli, savoir où je vais dormir, je calcule rien, en fait, c'est tout au feeling, parce qu'il y a tellement d'aléas sur une telle distance que ça sert à rien de calculer les choses, en fait. Et résultat, le duvet, je l'ai utilisé qu'une nuit, puisque j'ai passé 2 nuits à l'hôtel, en mode grand luxe.
T'as bien raison. Pourquoi t'es passé à l'hôtel?
Mais par sécurité, oui, par sécurité, je prends toujours de quoi dormir dehors, on sait jamais, quoi.
En cas de coup dur, ouais, vraiment le coup de fatigue qui te tombe dessus, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi tu es resté, pourquoi t'es allé à l'hôtel? À cause de la pluie, tu m'as dit tout à l'heure.
En fait, déjà, donc on est parti, c'était le samedi vers midi, nuit du samedi à dimanche, donc j'ai fait une nuit blanche, donc je l'ai passé sur le vélo. Et on a eu la pluie le dimanche à partir de 12h30, 13h. Jusqu'au soir, et là j'étais, quand je me suis arrêté vers 18h30, 19h, j'étais limite en hypothermie, donc là j'ai décidé de trouver un hôtel et de me poser, parce que ça devenait un peu dangereux, en fait.
À quel niveau dangereux?
J'étais vraiment frigorifié, quoi, j'avais plus, fallait que je me mette au chaud, en fait, tout simplement. Passer une nuit dehors, je pense que ça aurait été, borderline, on va dire. Et là, du coup, oui, j'ai fait une grosse coupure, puisque je me suis arrêté sur les coups des 19h, 19h30. Et je suis reparti le lendemain qu'à 5h. Donc, du coup, je me suis fait une nuit de 8h de sommeil. Et qui a été bien réparatrice, puisque le lendemain, j'ai redoublé tous les concurrents qui m'avaient repris la veille. En
fait. C'est intéressant ça comme stratégie parce que, comme on disait tout à l'heure, beaucoup se concentre sur vraiment un temps de sommeil minimal, tout en roulant doucement. Et là, justement, tu amènes une théorie inverse. En plus, avec les conditions climatiques, on y laisse quand même pas mal de plumes. Et ceux qui ont fait le choix de ne pas dormir, en plus d'avoir affronté les conditions climatiques, finalement, ça les a un petit peu scotchés au sol. Alors que toi, en étant frais, en ayant bien dormi, t'as rattrapé les morts sur le bord de la route.
Oui, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas prévoir de stratégie, parce que, comme tu dis, il y a plein d'aléas climatiques. Il y a beaucoup de choses qui font que il faut improviser à l'instant T ce qu'on va faire, quoi. Et là, je pense que c'est la bonne option, parce qu'il y en a qui ont dû dormir dehors ou à l'abri, dans des températures pas forcément froides, mais avec la pluie, on laisse beaucoup plus de jus, de calories. Et oui, du coup, ça m'a appris qu'en fait, une bonne option aussi, c'est peut-être sur des courses un peu plus longues, de faire une nuit sur deux à l'hôtel et une nuit sur deux blanche, en fait. Parce que l'avantage aussi, c'est que après une nuit blanche, quand on se pose pour dormir la nuit suivante, on dort de suite parce qu'on est vraiment crevé.
Alors que quand tu n'es pas complètement crevé, peut-être il y a une petite excitation du système nerveux qui fait que tu as du mal à t'endormir, malgré la fatigue, alors que là, tu es...
Exactement. Ben là, je l'ai vu sur l'Italie Divide, donc après ma nuit de... bonne nuit de 8 heures, donc j'ai poussé jusqu'à Florence, où là, j'ai repris un autre hôtel, où je voulais me poser un peu pareil au chaud. Et là, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver le sommeil et j'ai dû dormir 4 heures quoi seulement. Du coup, je suis parti à 4 heures du matin sans avoir mis le réveil.
Non, parce que t'avais les yeux grands. À 4 heures, t'avais les yeux grands ouverts, t'étais prêt à partir.
Oui, j'avais mal. J'avais pas réussi à trouver le sommeil, mais bon, même malgré ça, ça repose quand même bien le corps d'être allongé. Et après, c'est vrai que sur de telles distances, j'en parlais avec Maxime, c'est une stratégie qui est intéressante aussi, parce que le fait de pas s'arrêter, tu sollicites vraiment tout ce qui est articulation, tendon, et je pense que ça peut se payer aussi vers la fin. Donc, tandis qu'en roulant un peu plus vite et en ayant des arrêts un peu réparateurs, on va dire, ça permet d'arriver relativement plus frais, en fait.
Bah ça reprend un petit peu l'adage de, tu te rappelles, de Jean-Paul Stéphan. Alors là, c'est vraiment pur VTT et j'extrapole et je l'assume. Et la théorie de Jean-Paul, c'est s'en sortir par l'attaque et la vitesse règle tous les problèmes. Et que ce soit toi ou lui, sur les cailloux, dans la boue, vous m'aviez dit tous les deux, faut passer le plus vite possible. Mais peut-être qu'une des options pour l'ultra, ça va être d'aller un petit peu plus vite et de dormir plus maintenant. Peut-être qu'on va inverser la courbe, on va sortir de, entre guillemets, cette mode de ne pas dormir et de rouler à deux à l'heure. Et peut-être qu'on va peut-être trouver une autre option qui va être de rouler un poil plus vite et de s'arrêter un poil plus vite. Et avec le niveau qui augmente et les mecs qui se préparent de mieux en mieux,
voilà,
après, ça va aller de plus en plus vite, de toute façon.
Ah oui, tout à fait, oui. Après, ça dépend des épreuves, ça dépend du terrain rencontré, des conditions météo. Enfin, il y a un tas de facteurs qui font que, comme je te disais, on peut pas prévoir une stratégie avant de partir.
Et ça demande de l'expérience, en fait. Parce que ne pas prévoir quand on débute. On parlait des débutants tout à l'heure qui partent au carton un petit peu inexpérimentés. Être capable d'improviser et de changer, de partir sans stratégie et de faire le bon choix au bon moment, ça demande quand même pas mal d'expérience.
D'expérience, après, il y a peut-être des gens qui arrivent qui sont pas forcément dans le milieu du vélo, mais qui ont une expérience de baroudeur, on va dire, que ce soit à pied ou en courant, quoi que ce soit, qui ont quand même pas mal de recul par rapport à ça aussi. Donc je pense que le manque d'expérience vient plutôt de ceux qui arrivent du milieu du vélo, mais qui n'ont jamais fait de longue distance.
Ouais, comme pour Paris-Brest, Bordeaux-Paris, et on l'a vu également sur la Race Across Belgium il y a 2-3 semaines, Le danger, il est aussi pour les cyclistes, les ex-coureurs, en fait. Les purs coursiers qui se lancent, qui partent comme s'ils partaient faire 150 km, sauf qu'à 150, il en reste 1000. Et qui partent vraiment beaucoup trop vite et qui se crament prématurément. Et au bout de 300 km, il n'y a plus personne.
Ben, j'ai pas. Bon, c'est vrai que le Bordeaux-Paris, c'est spécial parce que t'as quand même, c'est pas de l'autonomie. T'as quand même trois points de ravitaillement, t'as une assistance qui est autorisée, si on le veut, donc. Et pareil, Brest-Paris, c'est pareil, c'est des épreuves qui sont idéales pour débuter, on va dire. Ben, c'est pas vraiment des épreuves, self-support. Donc, bon, les coups de mou se gèrent plus facilement parce qu'on n'est pas seul, en fait. Mais après, Bordeaux-Paris, c'est un peu un format sprint, donc c'est vrai que sur 600 kilomètres, bon, ça peut passer quand même.
Ouais, c'est un sprint. 600 km pour toi, c'est un sprint. Tu fais les pancartes à tous les villages, c'est clair. Bon, parlons-en un petit peu de Bordeaux-Paris. Qu'est-ce qui t'a excité à l'idée d'aller faire, d'aller de participer au retour de cette épreuve? Bon, on pourrait dire mythique, parce que bon, ça a été un format un peu oublié, puis là, ça a été remis au goût du jour par opportunisme avec la mode de l'ultra. Et alors que bah, initialement c'était quand même un truc de pro avec le Burdin à partir de, je sais plus, peut-être de Châtellerault-Poitiers, un truc comme ça, ou de Châteauroux. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à l'idée de te faire un truc vraiment une journée, enfin 24 heures, comme ça, vélo, et surtout en pignon fixe? Parce que là, il faut le préciser.
Ben, comme tu as dit, c'est le fait de le faire en pignon fixe, en fait. Sinon, je ne
Ouais.
serais pas allé.
Oh, c'était entre guillemets assez plat. Pour toi, c'était assez plat. Il y avait combien? Il y avait, c'était 4000, je crois, de dénivelé.
Ouais, ben au final, tu vois, j'étais surpris parce que je m'attendais à avoir beaucoup de plats. En fait, non, j'avais quoi, 5 700 mètres de positif. Il y avait que des petits coups de cul, des petites bosses. Enfin, il n'y avait pas de longues lignes droites vraiment
Ouais.
rébarbatives. Et moi, je me suis amusé du début à la fin. Franchement, c'était le parcours une très bonne surprise, en fait. Et du coup, ben, je cherchais en fait une épreuve à faire en pignon fixe. Donc, ben, déjà une épreuve gravel en pignon fixe, on va oublier de suite. La raf, je pense qu'il y a un peu trop de dénivelé pour la faire en fixe. Surtout, bon, c'est pas les montées qui sont dérangeantes, mais plutôt les descentes. En fait, on laisse pas mal de jus en descente en pignon fixe. Et pour ça, le Bordeaux-Paris, c'était vraiment l'épreuve parfaite. Donc, ça va être aussi un test parce que j'ai bien envie de refaire le Paris-Brest-Paris en pignon fixe, en fait, l'an prochain.
Tranquille.
Bon, après, je te dirais que à la base, j'avais acheté le pignon fixe pour un complément, enfin, d'entraînement, entre guillemets, et au final, je m'aperçois que 90% du temps, je roule avec ça maintenant.
Ouais, je vois. Ouais, je te vois sur Strava et t'es souvent dessus et t'es souvent à vélo, d'accord. Donc quand tu dis ouais, pour les gens qui travaillent, je me demande si tu t'inclus vraiment dedans, parce que je te vois quand même beaucoup rouler. Mais bon, peu importe.
Disons que quand les gens dorment, je bosse.
Oui, c'est vrai que t'as un boulot de nuit, toi.
Donc non, c'est vrai que ouais, bon, c'est, enfin, moi j'ai pas mal, je bosse beaucoup en horaire décalé. Enfin oui, je bosse en horaire décalé et du coup, ça me laisse énormément de temps libre. Ça, c'est une liberté qui a pas de prix. Ouais. Enfin oui, le prix, c'est que la fatigue avec les années, je la sens venir.
Tu sens la différence justement sur ces 2-3 dernières années? Tu sens un petit basculement? T'as quel âge déjà? T'as 47, je crois.
47 cette année, oui. Ben là, oui, comme tu dis, ça fait 2 ans que je sens que je patine entre guillemets un peu
Tu sens à
plus.
quel niveau ce patinage, tu sens que t'as pris entre guillemets un coup de vieux à quel niveau? Sur la récup ou sur la force pure?
Ben au niveau du. Non, non, sur le vélo, non, mais c'est au niveau du sommeil. J'ai plus de mal à récupérer des horaires décalés, en fait, tout simplement. Non, étonnamment, sur le vélo, non, je vois pas. Enfin, j'ai pas trop. C'est pas le déclin
Bon,
encore.
super, je suis très heureux de l'apprendre.
Mais c'est vrai qu'au niveau des horaires, quand je travaille de nuit, tu vois, j'ai de plus en plus de mal à récupérer des nuits, en fait, tout simplement. Mais après, oui, je roule beaucoup, je roule même trop, hein, je pense.
C'est-à-dire trop, ça veut dire quoi?
Chaque année, je me dis que l'objectif, chaque année, c'est de rouler moins, mais en fait, je me prends à chaque fois au jeu, et c'est vrai que... Ça va s'arrêter un jour, quand même. Enfin, diminuer.
Ah, ça va bien finir par s'arrêter, cette affaire, un jour. Hein. De toute façon, il y a un... Faut pas... 47 ans, ça va, t'as encore pratiquement toute la vie devant toi, donc c'est nickel, tout va bien.
Oui, j'ai encore 10 ans de... De bonne perf, hein, d'essayer de faire des choses, on va dire.
Et là, pour la suite de l'année, donc là, tu m'as dit tout à l'heure la RAF, et après ?
Alors après, ben, comme je te dis, l'objectif de l'an prochain sera de refaire le Paris-Brest-Paris. Donc, en fait, je vais faire à Bordeaux la Ronde Aliénor-Aquitaine le 4 juillet. C'est un brevet 1200 km qui est qualificatif pour le Paris-Brest-Paris, justement. Et ça me fera, je pense, le faire aussi en pignon fixe, donc ça me fera, je verrai bien comment, si je tiens à 1200 en pignon fixe, en fait. Je sais que maintenant que 600, j'arrive à les tenir, 1200, à voir.
Qu'est-ce qui va te...
Et après, ben, pour la fin de l'année, bon, déjà, juillet, août, moi, je diminue, je roule, enfin, je roule moins, oui. J'allais dire, je roule pas, non, c'est faux. Mais oui, voilà, déjà juillet août, j'ai rarement de vacances, et bon, avec la chaleur qu'il fait ici, c'est on évite de rouler trop. Donc du coup, en septembre, je pense faire un Perpignan-Colmar ou Perpignan-Strasbourg en vélo. Et j'ai vu qu'il y avait une épreuve aussi en octobre au départ de Montpellier, donc gravel ou VTT, Poco
ouais,
Loco, ça s'appelle.
Oui.
Donc il y a un 700 gravel ou route et un 1700 route, donc je vais voir si je peux partir sur le 700, donc à voir si c'est route ou gravel, je sais pas encore.
Bah moi je sais plus quoi dire là, hein. T'as répondu tellement précisément à toutes les questions que là je suis à court en fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte?
D'accord.
Je sais plus quoi dire. Hein. Là en plus ça fait 2 semaines que j'ai pas fait d'épisode à cause de mon planning un peu musclé. Ouais, j'ai perdu l'entraînement, ça y est.
Et oui, c'est vrai qu'on a reporté. Ça fait une semaine qu'on essaie de.
Ouais, bah je sens que je vais avoir des courbatures ouais. Là parce que la reprise est difficile. J'ai perdu mes repères. Je pédale carré en termes de podcast. Là, ça y est.
Ouais, voilà.
Alors j'en refais un.
Après, tu vois, dans
demain, mais quand même, je sens que j'ai perdu. Ouais, je suis moins bien.
Ouais.
Faut que je me débloque.
Après, pour la suite, je pense que je vais m'orienter peut-être vers plus du bikepacking, enfin touriste entre guillemets, dans le sens où ben, dormir la nuit pour profiter un peu de la journée pour les paysages, parce que ce qui c'est un peu frustrant dans l'ultra, c'est qu'on passe dans des beaux endroits de nuit, donc ouais. On n'en profite pas forcément.
Justement, tu vas reprendre un petit peu des voyages comme tu avais fait avec l'ami Maxime à travers l'Espagne, des trucs vraiment, bah, comme tu dis, relax, où tu profites. Bon, même si je me souviens d'un truc en Espagne où tu n'as pas
oui, avec...
profité parce que vous avez enchaîné les galères, mais n'empêche que c'est ça aussi le voyage.
Ouais, mais au final, c'est que c'est des bons souvenirs, tu vois. C'est les galères se sont vite transformées en moments très sympathiques, donc ça s'oublie. Mais après, oui, avec Maxime, j'espère refaire quelque chose. On a fait le tour du Lot l'an dernier. Là, on s'était régalé aussi. Et à voir, parce que c'est vrai que moi, enfin, en fonction de ce qui va me rester en vacances aussi, parce que ça part vite. On pensait faire le 7 tout 7 dans l'Hérault en fait, une boucle qui fait un peu plus de 700 km en VTT gravel, donc il faudra qu'on se cale ce
en
truc.
En VTT gravel.
La GTMC, j'aimerais bien la faire depuis le temps que je voulais la faire aussi, j'ai pas trouvé le temps d'y aller.
La grande traversée du Massif Central. Par contre, tu me dis en VTT gravel, ça veut dire quoi? C'est du gravel engagé un VTT avec un gravel avec un guidon plat, qu'est-ce que c'est? C'est du gravel pour vététiste.
Voilà, t'as bien résumé la chose. Oui. Je pense que c'est du gravel pour vététiste.
Alors c'est quoi du gravel pour vététiste? Parce que je sais que j'ai un auditeur qui est particulièrement intéressé par le gravel de vététiste. Je vais pas trahir son identité, mais il s'appelle Benjamin L. Et je sais que lui, son truc, c'est vraiment le gravel, le VTT gravel ou le gravel VTT ou... je sais pas, un mix des deux, un truc comme ça, mais toi, c'est quoi pour toi le gravel VTT?
Ben en fait, comme on, c'est vrai qu'on en parlait avec plusieurs personnes, le gravel, c'est vrai que c'est un peu un mélange. Si tu viens de la route, que tu te mets au gravel, ben en fait, tu vas râler quand ça va être technique, et quand tu te mets au gravel en venant du VTT, tu vas râler quand ça va être roulant. Donc c'est pas évident de trouver un compromis en fait. Mais c'est vrai, ce qui était marrant avec Max, justement, qu'on a fait, quand on est parti en Espagne, c'est qu'on avait deux vélos totalement opposés. Lui, il était avec un VTT avec des pneus en 3 pouces, si je me souviens bien, ou 2,8. Et moi, j'étais en gravel avec des pneus en 35. Donc, au final, on a roulé ensemble tout le temps. Donc, lui était plus vite quand c'était forcément défoncé. Moi, j'étais plus vite quand c'était roulant. Quoi.
C'était son...
Mais maintenant, c'est vrai que...
Il avait son ouais. Brother jaune, c'est ça?
Non, il avait, je sais plus ce qu'il avait, un Genesis Vagabond, voilà. Mais après, c'est vrai que l'intérêt du gravel moderne, on va dire, c'est qu'on peut monter des pneus un peu plus gros.
Ouais.
Voilà, je vois sur le mien, je peux monter du 50, en fait. Et c'est vrai que j'ai fait des sorties ici avec des pneus en 50, bah, c'est un VTT, en fait.
Je vais te faire une confidence, là, vendredi, j'ai reçu le nouveau Ridley Kenzo Adventure en test pour le magazine. Il est monté en 2.1, avec des Vittoria Mescal en 2.1. Et un monoplateau de 40, et un monoplateau de 42. Alors là, je reçois un 38 demain, parce que je vais sur le GR Stevenson la semaine prochaine, pour le tester vraiment à fond. Mais là, oui. Avec le 42... Et les deux points et le plateau de 42, ah franchement je me suis... Bon, c'est un peu musclé, hein, dans les petits radars, tu vois les trucs où tu mets vraiment tout à gauche et tu passes en injection, le 42, c'est bien musclé, ouais. mais ça monte, ça, ah, c'est dingue.
Ouais.
Et encore, je ne l'ai pas essayé en tubeless parce que j'ai...
Ah bah oui, là,
j'ai pris le montage d'origine en chambre à air et je l'ai passé en tubeless hier, je vais y aller ce soir. C'est dingue. Ouais. Franchement, les gros pneus, c'est la vie. Hein. C'est génial.
Hein. Ah oui, moi, tu redécouvres un autre vélo, en fait. Hein. Ben, c'est vrai que l'avantage, c'est que moi, je reprends des sentiers. Moi, sur la fin, on faisait du VTT quand même un peu engagé. Bon, pas non plus de la DH, ni du gros enduro, mais on va dire du GR pourri. Et c'est vrai que les vélos modernes, déjà, j'ai pas trouvé qu'ils étaient trop adaptés, moi, à ce que je faisais. Il avait été moderne, maintenant, ça a un boîtier de balayage super bas, un angle de direction, c'est un chopper. Et quand tu fais du sentier vraiment pourri, je trouve que c'est pas trop adapté, quoi. Et en plus, des vélos qui permettent d'aller très très vite. Et ce qui devient aussi dangereux, je pense qu'il y en a pas mal qui ont arrêté un peu cette pratique à cause de ça aussi, quoi. C'est des vélos, tu veux te faire plaisir, faut rouler à 30-40 dans des sentiers, et ben quand tu te sors, soit tu te relèves et t'attends les pompiers, soit tu te relèves pas. Et l'avantage du gravel, c'est que ben il y a pas de suspension, il y a plus rien, et on se fait plaisir dans des sentiers qu'on avait délaissés un peu à cause de justement de la performance des vélos actuels. Où vraiment faut rouler dans du très dur, du très défoncé pour pouvoir les apprécier en fait.
Ouais. Ouais.
Et puis on vieillit.
Ah bah ça m'en parle. Ah m'en parle pas. tiens, tu sais, il y a des petits sujets comme ça pour se fâcher discrètement, pour envenimer une conversation. Donc par exemple, il y a le tubeless, c'est facile de se fâcher entre utilisateurs. Qu'on met le tubeless sur le tapis. Les suspensions en gravel, t'en es où toi? T'as essayé, t'es contre ou t'as envie d'essayer? Petite suspension, hein, t'es pas obligé de mettre 120. Hein.
J'étais à deux doigts d'essayer la LOF en fait, et j'ai eu plusieurs avis qui m'ont un peu découragé de le faire. Et puis au final, je regrette pas parce que, bon, pour moi, le gravel ça reste simple en plus. Les suspensions, faut commencer à les entretenir tous les ans, les passer en révision, etc. Et c'est plus trop. Pour moi, je vois pas. Enfin, passer les suspensions sur un gravel, je reprends un VTT, quoi, tout simplement.
Je pense qu'il faudrait que t'essayes, Paul. Je pense qu'il faudrait que t'essayes.
Oui, non, mais après, je suis persuadé du bien fondé de la chose dans des terrains vraiment pourris. Mais pour moi, c'est pas l'esprit, quoi. Je préfère encore me faire un peu plus tabasser, que ce soit moins efficace, mais rester dans ce truc-là.
C'est quoi l'esprit?
Bah, un peu plus de simplicité, tout simplement. Pas avoir une usine à gaz. Ah, tu parles à un gars qui roule en pignon fixe.
Non, non, mais je prends ton opinion. Je recueille ton opinion. J'en prends bonne note. Tout ce que tu pourras dire.
Mais après, non, après, voilà, pour être objectif, voilà, je suis persuadé que c'est hyper efficace, quoi. Tu mets une tige de sel sur un gravel et une petite suspension qui t'amortit tout, tu passes bien, bien plus vite, sans être pénalisé pour autant dans les montées, en fait. Mais bon, franchement, je pense pas franchir le pas.
On en reparlera, Paul. On en reparlera. Bon, tu sais quoi, puisque manifestement aujourd'hui je suis en rade d'inspiration et que je pense que l'on a fait le tour de tes derniers périples, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis après tout, ça fait 55 minutes, 53, c'est tout à fait correct.
Mais ah oui, déjà.
Tu crois quoi? Mais attends, on a évoqué plein de choses, l'Italie, Bordeaux-Paris, on a parlé de pignon fixe, de Paris-Brest-Paris, on a parlé de gravel. Est-ce que la gravel trop Brest te manque? Est-ce que la Bretagne te manque?
Ben, là aussi, j'y suis allé avec un petit a priori, hein, comme tous les gens du Sud, on va dire. Mais non, je m'étais régalé. Franchement, là, en fait, la première fois, je m'étais régalé parce que la météo était super bonne. J'ai trouvé un peu trop roulant, par contre. Et la deuxième fois, le parcours était mieux. Moins roulant, mais bon, par contre, au niveau de la météo, ben, comme tu avais vu, on avait chargé, quoi. Mais après, non, j'y suis allé deux fois, je pense que, voilà, je peux passer à autre chose, en fait.
Est-ce qu'il y a une épreuve ou une... Ouais, une épreuve ou un truc qui te fait vraiment envie et qui, pour le moment, te ferait dire « c'est peut-être un peu dur pour moi » ou « qu'est-ce qui t'intimiderait comme épreuve ?»
Ben, la TCR, tu vois, encore une fois, on y revient toujours. De par la longueur, et voilà, je m'étais dit, j'ai encore mon échec en travers, et je m'étais dit, ben, je la referai pour pas rester sur cet échec-là, et franchement, avec le recul, je sais pas. Donc, j'ai pas envie de me relancer là-dedans pour subir un nouvel échec, en fait.
Ça me fait un petit peu penser à Marty McFly dans Retour vers le futur quand il dit « Je sais pas si je serais capable de supporter à nouveau d'être rejeté comme ça quand il passe les auditions avec son groupe de rock au début du film. » Je te croyais pas aussi revanchard parce que là tu me dis « Je l'ai pas digéré. » Bon quand même, ça fait un moment maintenant, ça fait 5 ans, non? C'était 2017, tu m'as dit.
2007, ouais, c'est ça, 5 ans, ouais. Ouais, non, mais je l'ai toujours en travers encore, bah, tu
alors,
vois.
Alors, t'as deux options. Soit 4000 c'est trop pour toi et tu vis avec ça, soit tu retentes, mais tu vas pas rester, tu vas pas garder ça jusqu'à ta mort quand même. Va falloir y aller, va falloir que tu fasses quelque chose. Je suis désolé de te le dire ainsi, mais là faut que tu te bouges.
Non, mais à la retraite, j'aurai plus de temps, je me mettrai pas la pression. On verra bien, non, on verra bien. Franchement, après, à voir le parcours, à voir. Mentalement.
Je te crois pas, je te vois pas la faire en 3 semaines. Je te vois pas la faire en 3 semaines, Paul. Je suis désolé. J'ai du mal à t'imaginer avec tes sacoches paniers de chaque côté comme un facteur et puis faire ça peinard, dormir 7 heures par nuit, manger au resto à midi. Je te vois pas faire ça, même à la retraite. Je suis désolé.
Non, mais tu vois, je reviens sur. Ben, on parlait de stratégie, mais je pense que sur la TCR, tu vois, c'est une bonne chose de partir très léger et de faire une nuit blanche sur deux et de dormir une nuit sur deux à l'hôtel. Pour moi, c'est sur une telle distance, c'est la meilleure option, en fait.
Mais je crois que c'est l'option qu'a choisi, ou en tout cas une variante qu'a choisi Ulrich Bartholmos pour cet été, en fait. Il m'avait dit, la première nuit, on dort pas. Parce qu'on avait parlé de moyeu dynamo, etc., d'éclairage,
ouais, voilà.
De recharge, et il m'avait dit, bon, la première nuit, on ne dort pas, mais sur une distance, de toute façon, il faut dormir à un moment donné. Donc, ça va être souvent arrêt en dur pour recharger.
Ah, oui, oui.
Du coup, il va recharger tout son fatra électronique. Et je pense qu'il va partir extrêmement léger, mais qu'il va dormir en dur, m'avait-il dit.
Ben, en fait, oui, c'est ce que... En fait, ben, t'as une grosse différence, hein, quand tu dors, tu fais une nuit de 6-7 heures dehors, sur un matelas à air et dans un bivy, on va dire, t'es pas reposé comme si tu dormais à l'hôtel au chaud avec une bonne douche, et etc. Là, y a pas photo. En plus, comme tu dis, ça permet de partir un peu plus léger, dans le sens où bah, tu te passes de moyeu dynamo, tu prends juste un éclairage qui te dure une nuit, on va dire, et tous les deux jours, tu recharges tes appareils et en avant, quoi.
Oui, et puis lui, ben, tout à l'heure, on parlait de la stratégie rouler fort, s'arrêter plus longtemps. Ben, Ulrich, il roule fort, hein, donc il roule très fort. Il a optimisé son vélo. Enfin, je sais pas si tu as vu récemment, mais le folklore un petit peu du vélo acier, du machin solide, lourd comme un tank. Là, on est plus du tout à ça. Hein. Là, il a le même BMC que lui, l'équipe AG2R Citroën, avec des roues lightweight. C'est un tank, mais un tank dans le bon sens du terme. C'est une machine d'assaut, son truc. Hein. Donc, quand il appuie, ça roule vite.
Oui. Après, il faut un compromis avec la fiabilité aussi, parce que bon. Des lightweight, moi je m'embarquerai pas sur 4000 km là-dessus. Quoi.
Bah écoute, on verra le résultat, mais il est un peu.
Mais oui, après, oui, je doute pas.
Ulrich, il est maniaque, hein. Il est maniaque du détail. Enfin, c'est un Allemand, quoi. Hein. Enfin, sans faire de généralité sur nos amis allemands. Lui, il est spécifiquement allemand, extrêmement sur le détail.
Ouais, mais après, tu vois, je pense que être maniaque du détail comme ça, c'est bien sur une cyclo sportive, mais sur une épreuve aussi longue où t'as tellement d'imprévus, d'aléatoires, je pense pas. Ce soit tellement utile, quoi.
Il y a que l'histoire qui va donner raison ou tort à Ulrich. Il n'y a que l'action. Donc, on verra ça cet été quand il aura franchi la ligne d'arrivée. Et on verra le résultat et on verra ses impressions. Mais, mais à un moment donné, il faut.
Parce qu'après, sur une épreuve comme ça, le mental compte beaucoup plus que le physique et le matériel. Hein. De toute façon, il ne faut pas se leurrer.
Sur le mental, je ne me fais pas de soucis pour lui, étonnamment.
Voilà, donc oui, après voilà, si le mental est là, derrière, tu peux lui mettre... Bon, après, je pense que le fait d'avoir du bon matériel et de... Comment dire, de maîtriser beaucoup de paramètres ou d'être convaincu de les avoir maîtrisés, ça aide aussi dans le mental pour arriver au bout.
Bon, mon petit Paul, je vais te laisser pour ta minute de solitude. C'est bien parce que ça... Oui, exactement,
ah bon
exactement. Non, mais attends, tu crois quoi? C'est pas parce que moi, je suis en rade aujourd'hui et que je frôle les limites de la médiocrité que je vais te laisser t'en tirer aussi facilement. Du coup, je te remercie une fois de plus pour le temps consacré et la bonne humeur. Je te tiendrai au courant si je descends à Barcelone cet été et du coup, je ferai un arrêt à Perpignan pour voir aussi Cyril.
Ah bah avec plaisir, oui.
Je t'en.
Il est Cyril, oui, il est Perpignan aussi.
Il habite à Perpignan, donc. Mais il est timide, donc je lui ai dit plein de fois, mais va rouler avec Cyril et puis va rouler aussi avec un gars qui habite à 15 km de chez moi, qui est de Perpignan, avec qui t'as roulé d'ailleurs aussi, dont le prénom m'échappe. Mais il habite à 15 bornes de la maison et il descend souvent à Perpignan. Il y est en ce moment, là, j'ai vu hier une sortie passer. Et vous avez déjà roulé ensemble. Il a un Lapierre, il est équipé Lapierre de la tête aux pieds et Française des Jeux, parce qu'il est pote avec un mécano de la Française Groupama. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et je lui avais dit, mais va rouler avec Paul et tout. Et puis, ouais, non, il est trop fort pour moi. Bon, ça, je peux comprendre, remarque. Mais il est timide, donc il va falloir l'emmener.
Non, mais moi, franchement, je roule tout le temps. Ben, je roule tout le temps tout seul, donc c'est vrai que rouler avec les autres personnes, c'est intéressant.
Je vais essayer de le convaincre, parce que là, en plus, je lui ai mis dans un challenge, challenge pour progresser, donc je vais l'embarquer avec toi. Je vais vous mettre en contact et vous allez aller rouler ensemble. Même pas longtemps, ça fera du bien quand même.
Ouais, pas de soucis, ça fera avec plaisir.
Bien. Bon, bah, du coup, je vous embrasse tous les deux, Cyril, Paul, et je te laisse pour ta minute de solitude, je coupe mon micro, et quand tu as terminé, tu ne fermes pas ton ordinateur, tu ne fermes pas ton onglet, tu touches à rien. Tu vas juste faire pipi et te faire un café, et voilà, tu touches à rien, d'accord? Allez, grosse bise, salut.
Ok, ça marche. Allez, bise, à la prochaine. Bon, bah, minute de solitude, bah, écoutez, je sais pas trop quoi dire, en fait. Donc, si ce n'est que, ben, en fait, faut profiter, quoi, sur ces épreuves-là, qui sont dures physiquement, qui sont dures mentalement, je pense qu'il faut pas trop se mettre la pression. Et profiter, parce que finalement, c'est quand je suis parti dans cet état d'esprit-là que j'ai le mieux performé, entre guillemets, on va dire. Sans trop de pression, quoi, donc, voilà. Donc, je sais pas si ça fait une minute. J'ai pas mis... Non, 37 secondes, il y a encore le chrono. Donc, ben, je pense que la minute va se réduire à 40 secondes, puisque Richard m'a tendu un petit piège, là. Donc, Richard, je pense que tu m'entends. Donc, voilà, bon, ben, je vous dis tous à bientôt sur les routes, sûrement, je sais pas... S'il y en a qui sont inscrits sur la RAF ou sur le Lucent d'Alieno. Et voilà, donc profitez, amusez-vous, et c'est que du vélo, comme dirait l'autre. Bye! Ciao les gars!